Christophe Carmona, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous venez aujourd'hui pour déjà parler un petit peu de vos livres, hein, parce que vous ne faites pas que du dessin, vous ne faites pas que des BD.
Oui.
Et ça, on en parlera aussi après. On va commencer quand même par la BD, c'est le point principal de vos œuvres, de votre travail.
En quelque sorte, oui.
Hein, parce que qu'est-ce qu'il y avait comme BD en dehors de Aline, les aventures d'Aline?
Alors, je travaille pour plusieurs éditeurs. Donc, par exemple, pour les éditions du Cygne, je fais également des albums de commandes donc sur l'histoire d'Alsace. J'ai fait une BD déjà fantastique aussi, Les Royaumes d'Alsacia. Et je dirais que mon travail le plus personnel, c'est les aventures d'Aline quand même, parce que c'est un personnage que je tiens à faire balader comme ça dans l'histoire.
Et c'est la 8e édition avec une aventure qui se passe juste à côté, hein, dans le musée Lalique.
Pas très loin, effectivement, donc autour de René Lalique.
Oui, en tant qu'à faire.
Tant qu'à faire.
On l'a fait évoluer dans le cadre familial un petit peu, puisque hein, vous venez de Vignon-sur-Moder, et là également, voilà. Le musée Lalique se trouve, on en parle suffisamment également, à Vignon-sur-Moder. Donc pourquoi ne pas faire.
Une BD là-dessus. Oui.
Voilà. Donc là, lorsque ce sont les aventures d'Aline, vous écrivez les textes également.
Exactement. Voilà, oui.
Donc dessin et texte. Par contre, vous faites également des gravures pour d'autres auteurs.
Alors, c'est-à-dire que je fais par exemple des bouquins sur les châteaux, sur les villes fortifiées et sur les rochers tout récemment, le dernier. C'est-à-dire que c'est des bouquins que je conçois avec au niveau des lieux que je vais choisir. Et ensuite, je vais faire appel à Guy Trindel pour les textes. Et Guy Trindel va se coller donc à résumer le mieux possible mon travail et y ajouter également ses propres recherches. Donc c'est vraiment un travail d'équipe que nous réalisons là. Et à la base, c'est moi qui provoque un peu l'idée, surtout par exemple pour les châteaux forts, où ça fait des années que je les dessine en parcourant les montagnes. Et
donc vous faites beaucoup de promenades, beaucoup de marches.
Alors je fais beaucoup de marches. Je dirais que c'est quand on marche pour le plaisir le dimanche pour aller dans un lieu sans se poser la question où on va, c'est reposant. Quand on y va pour le but d'un livre, c'est tout à fait une autre démarche. On marche plus de la même manière. On a des fois il faut se motiver.
Vous arrêtez.
Quand je vais marcher, c'est vraiment toujours dans un but de faire des recherches, d'aller chercher un site et donc. J'y passe beaucoup de temps à essayer de trouver des lieux remarquables.
Donc les châteaux, vous allez aussi bien dans le Haut-Rhin que dans le Bas-Rhin.
Oui, tout à fait. Donc et même en Moselle.
Disons que ça fait partie du Grand Est, hein, finalement, la Moselle, c'est juste à côté.
D'une certaine façon.
Hein, c'est juste à côté, donc on a aucun souci là-dessus. Les rochers fantastiques d'Alsace, c'est votre dernier livre, alors.
Oui.
Ouais. Donc Guy Trindel, je suppose, qu'il marche aussi.
Ah ben Guy Trindel, lui marche tout le temps. Il marche tous les jeudis. D'ailleurs, il fait une grosse rando et donc c'est quelqu'un qui parcourt tous les sentiers, que ce soit d'Alsace et du Palatinat, voilà. Et c'est quelqu'un qui connaît extrêmement bien la forêt. Il y a pas de.
Oui, oui. Voilà. Donc il cherche. Alors en même temps, il retrouve des rochers parce que les rochers fantastiques, vous lui avez demandé.
Alors,
mais.
Là, c'est moi qui ai trouvé les rochers aussi. Donc c'est-à-dire que j'ai. Comme dit, j'ai fait les dessins et Guy Trindel s'est ensuite appuyé sur les textes. Donc c'est un peu, la démarche inverse.
Ouais.
Là, c'est moi qui vais chercher les lieux.
Ouais.
Donc des rochers que des fois certains dont j'ai eu du mal à trouver parce que bon, faut dire que
ah bah, il faut pénétrer dans les forêts.
Il faut pénétrer dans les forêts. Certains rochers étaient connus il y a 15-20 ans et aujourd'hui, la végétation a poussé, les balisages sont plus là et donc il faut des fois les chercher. D'autres, bon, les plus célèbres sont faciles à trouver. Donc c'est pas mal de boulot d'aller dénicher ces lieux-là.
Donc vous faites comment? Vous prenez les photos? Vous prenez?
Alors quand je vais quand
vous
je cherche,
dessinez sur place.
Je prends aujourd'hui, je prends plus de photos parce qu'avec la photo numérique c'est facile. On peut ramener. Moi, je prends en général une soixantaine de photos sur un site. Hein, j'hésite pas. Après, bien entendu, il en restera toujours 2-3 qui seront les plus jolies photos, mais d'ailleurs qui sont publiées dans le bouquin également. Et sinon, je m'en sers essentiellement pour travailler ensuite graphiquement dessus, quoi.
Et d'où vient l'idée maintenant comme ça? Parce qu'il y a toujours un petit peu de magie dans dans vos dessins.
Alors l'idée, c'est que déjà le lieu, est, je les trouve magiques. Je trouve certains rochers incroyables parce qu'ils sont en forme de champignons, en forme de pics comme ça. Ils sont remarquables. Et ensuite, j'avais envie d'y mettre un peu de poésie, un peu de romantisme dedans. Donc j'ai rajouté à chaque fois un petit personnage qui va être là pour animer. Et ça donne un petit côté un petit peu romantique, qui c'est un peu que mon dessin finalement serve quand même à faire rêver les gens. Et donc après, aux gens d'aller sur les rochers et d'imaginer ce qu'ils veulent également. Hein. Donc on y apporte finalement le rêve qu'on veut dans ces lieux-là. Quand on y va, on se laisse aller par notre imaginaire. C'est le but.
Et qu'est-ce qui a été le plus dur à trouver dans les rochers?
Le plus dur, c'est vraiment de trouver certains rochers quand même. Dans...
Ouais.
Donc, pour anecdote, par exemple, quand vous avez un rocher qui est, que vous mettez du temps à trouver, vous grimpez sur une montagne et puis à un moment donné, vous voyez qu'en fin de compte, vous l'avez pas trouvé, vous grimpez par un autre endroit et vous arrivez sur le rocher. Quand vous redescendez, vous apercevez qu'en fin de compte, vous passez.
Vous étiez sur le rocher.
Tenez-vous bien devant un mirador qui est placé devant le sentier, quoi, quand même.
Ah oui, d'accord.
Et dont on a abattu un arbre pour empêcher. pour empêcher les gens d'accéder au rocher. Donc c'est quand même pas, pas toujours très drôle, mais cependant j'ai quand même réussi à le trouver, le rocher. Donc après je fais un petit plan pour indiquer aux gens comment y aller.
Bon, en fait, faut abattre le mirador et puis c'est tout. Hein.
Non, le mirador il a sa place dans la forêt, mais je dirais que des fois on me tend des pièges comme ça. Ouais.
Ou alors c'est peut-être les fées finalement qui tendent ce piège.
Peut-être les fées ou les gnomes.
Ouais,
oui.
Vous aimez bien tout ça. Par exemple, à Martin Swan, la roche des alpinistes, c'est où exactement?
Alors le Matin, alors ça c'est un rocher qui se trouve, c'est un ensemble de rochers. Hein, donc c'est au col de la Chlourte. Quand vous arrivez au col de la Chlourte, vous laissez la voiture et vous pouvez partir des deux côtés. D'un côté vous avez le Martinswand et de l'autre côté vous avez aussi un ensemble de rochers. Ce sont vraiment des véritables falaises, quoi. Et c'est d'ailleurs plutôt conseillé d'avoir de bonnes chaussures et de pas avoir le vertige quand on s'y promène. Hein.
À certains endroits. Et puis y aller pas par temps de neige ou de pluie, parce qu'on risque de glisser là également.
Absolument. Donc il faut être très prudent et bien équipé. Hein. Il y a déjà eu des accidents dans ces endroits-là. Disons, moi je vais ensuite choisir aussi. Quand je vais avec quelqu'un, je choisis des rochers, des fois, par rapport à la personne, qui sont abordables.
Oui, bien sûr, mais bon, des fois, on perd un petit peu sa prudence, parce qu'on se dit, oh, c'est facile, on y va. Mais c'est vrai qu'on dit toujours, les Vosges, c'est également des montagnes, il faut y faire attention.
Il faut faire attention à ne pas tomber, mais il faut faire attention aussi à ce qui peut nous tomber dessus. Par exemple, c'est pour ça qu'il y a certains châteaux dont l'accès est limité, on ne peut plus longer, par exemple, passer sous le donjon, parce que le donjon doit être fois restauré. Consolidé. Donc les gens se posent des questions, pourquoi on met des barrières? Des fois, c'est parce que y a des pierres qui tombent, tout simplement, et surtout après l'hiver, hein, donc vous avez, ou des arbres qui peuvent tomber. Donc la forêt, c'est quand même assez dangereux de temps en temps, il faut faire attention. Hein.
Exactement, et la montagne, on la respecte pareillement.
Tout à fait.
Les roches qui sont hantées par les sorcières, mais pourquoi les sorcières? C'était des légendes qui sont sur place, ou c'est vous qui inventez?
Alors non, on indique que c'est des rochers de sorcières, c'est vraiment des rochers avec des noms de sorcières. Alors moi, j'ai une théorie là-dessus, c'est que ce sont essentiellement des lieux qu'on servit au procès, au moment des procès de sorcellerie, qui étaient des sorciers, des procès bidons, hein, contre des gens qui n'avaient absolument rien fait. Et donc, on fallait bien qu'on leur indique un lieu. Et donc, c'est ces lieux-là, on dit, voilà, vous allez là-haut, vous faites des sabbats. Et donc, c'est quelque chose qui n'a pas existé. Mais ça permettait.
Qu'est-ce que vous en savez finalement?
j'en sais parce que j'ai un peu étudié déjà les textes et les minutes de ces procès là, et je trouve que il y a beaucoup de fantaisie, donc ça voudrait dire qu'on peut voler, qu'on peut chevaucher un bouc qui va voler dans le ciel. Oui, que ce qu'on en sait, effectivement. Et alors, il faut savoir aussi que si vous prenez, par exemple, des cartes d'une certaine période, ces rochers-là s'appelleront des rochers des fées, et ensuite, ils vont s'appeler de nouveau des rochers des sorcières. Oui. Donc, ils vont changer de nom d'époque en époque. Et également, une autre chose d'amusant, c'est que quand vous avez un rocher comme ça, qui s'appelle rocher des sorcières ou rocher des fées, il y a toujours une croix qui a été sculptée quelque part. Donc ça, c'est aussi la main de la christianisation qui est venue
pour se protéger,
pour dire attention, non, c'est ce lieu, il faut le purifier.
D'accord. On revient dans quelques minutes, pour parler encore de ce livre, et ensuite on parlera du fameux festival
qui
aura lieu au Comics Expo. Allez, on va continuer un petit peu à parler, Christophe Carmona, de ces fameux livres. Alors, c'est vrai que le dernier, Les Rochers Fantastiques d'Alsace, on peut les trouver où ?
Oh, normalement, chez tout bon libraire. Oui. Donc, et supermarché aussi. Oui. Ouais.
Et comme on n'a que des bons libraires, donc c'est...
Absolument.
Hein, oui. Donc on les trouve un peu partout. Alors ça, c'est votre dernier bébé, donc Les Rochers Fantastiques donc de la région d'Alsace. Est-ce qu'en dehors de l'Alsace, Moselle, vous allez plus loin, non ?
Alors je vais... bon, j'adore les rochers de la forêt de Fontainebleau, là c'est très loin. Donc j'y vais en général une fois par an, parce que les rochers sont quand même remarquables aussi. Là-bas, il est très, très sculpté, très taillé. Ouais. Et je m'intéresse pas mal au département des Vosges aussi. Donc du côté de Saint-Dié, Saint-Dié, Épinal, là dans ce secteur-là, vous avez beaucoup de superbes rochers aussi. Là.
Ah bah oui, c'est juste à côté de l'Alsace. Donc ça fait... Moi je dis toujours que ça fait partie de l'Alsace en fait. Voilà. Les Vosges, c'est pas...
Voilà, et sinon vous avez le Sungo avec le Jura aussi qui est intéressant le début. Donc, dans ce livre, vous avez des rochers qui sont vraiment à l'extrême, l'extrême sud de l'Alsace.
Et il y aura une suite d'autres livres.
Alors j'ai envie d'en faire un autre, mais à chaque fois, comme je vais changer à chaque fois le titre, donc ça va s'appeler autrement et ça va montrer d'autres sites encore, également des sites remarquables de l'Alsace et de la Moselle. Donc je suis en train de recherche même, de recherche sur le terrain.
On va même pas en parler alors.
Non, voilà, de rassemblement, de documents et de choses comme ça. Donc
il faudra en venir nous en parler quand il va sortir, lorsque vous aurez trouvé. Donc on va parler maintenant d'un festival de BD. C'est le sixième déjà qui se déroule au château au Königsbourg. Alors ça va débuter, nous sommes le 17 juin, ça va débuter le 4 juillet.
Oui.
Et ça va durer jusqu'au 31, jusqu'à la fin de l'été. Ça consiste à quoi ?
Alors, le ceci-là consiste à déjà une exposition qui est dans l'intérieur du château. Donc sur les listes du château, quand on quitte le château, vous aurez des panneaux qui montrent les travaux des différents auteurs de BD. Donc ça c'est dans un premier temps, et ensuite deux fois dans le mois on se rassemble tous pour dédicacer nos albums. Donc on est plusieurs auteurs, donc plusieurs maisons d'édition, et on se rassemble et on rencontre le public. Donc c'est le 9 et le 14 juillet. On pourra nous trouver tous là-haut, dans une bonne ambiance, à dédicacer nos albums.
Et s'il fait beau, ça sera super.
Absolument. Et moi, je fais le 13, dans l'après-midi, une séance de dessin avec des touristes. C'est-à-dire, je leur fais faire un dessin, un cours de dessin. Ouais. Et ils repartent avec quelque chose en main. Ils ont réalisé quelque chose. Donc, en général, c'est une vingtaine de personnes. Et je m'occupe d'eux. Pendant 2 heures, on travaille et je leur explique comment fonctionne le dessin.
Et les gens sont doués ? Puisque c'est pas la première.
Il y a des choses très sympas. L'année dernière, j'avais des superbes choses. Il y a une jeune fille d'ailleurs qui dessinait déjà bien, comme ça. Donc elle se met toujours à part. On sent tout de suite les gens qui ont.
Un peu de.
Donc ils se mettent un peu à part. Ils écoutent moins les conseils parce qu'ils ont déjà leur technique. Et puis ça donne des petites choses sympas. Et puis vous avez ceux qui disent moi je sais pas dessiner. Ils viennent pour accompagner leurs enfants. Et puis finalement, je les force. Et finalement, ils finissent quand même par faire quelque chose. Donc intéressant, c'est un beau challenge.
Donc ils dessinent par exemple un château qui ressemble à un château.
Voilà, alors disons que je choisis un thème une fois, chaque année je choisis un thème. Une fois on avait fait fabriquer des boucliers et chacun faisait leurs armes par exemple dessus, après c'était des mannequins articulés, et cette année ça sera le costume médiéval à travers l'imaginaire en plus du Kaiser, donc du château. Donc voilà.
Alors tout le monde va repartir en costume, ça va être super sympa.
Avec des costumes, des personnages en costume dessinés, donc du Moyen-Âge, du Haut Moyen-Âge et de la Renaissance.
Ce festival de BD au château du Königsbourg, ça accueille que des auteurs alsaciens ou...
Alors je crois qu'on est tous on habite tous en Alsace, donc c'est parce que le truc ce sont des éditeurs alsaciens qui se sont rassemblés entre eux et qui d'ailleurs on a fait ils ont créé une association dont moi je fais partie qui s'appelle HKBD. Et donc, c'est les auteurs de HKBD, donc de, ouais. Qui font partie de cette association.
Mais vous n'avez pas envie de vous ouvrir un peu à d'autres régions, par exemple, comme le fameux festival de la BD à Angoulême qui rassemble plein de monde de la France et d'ailleurs.
Bah, disons qu'on fait, on fait, on
fait un festival. Parce que c'est la sixième déjà, la sixième voilà. Édition.
On fait un festival original, donc on n'a pas vraiment besoin non plus de s'ouvrir. Je dirais que l'acteur principal de ce festival, c'est le château.
Oui. Donc on laisse la paroisse dans le lieu, quoi.
Absolument. Donc, ouais. Moi, je suis plutôt pour donner de l'authenticité à un lieu. Plutôt que d'aller toujours chercher dans national ou l'international, avoir quelque chose d'authentique, on vient chercher de l'authentique. Je pense que les touristes qui viennent au château viennent visiter un site alsacien avec une certaine idée de ce lieu. Et donc, ils vont trouver. Après, bon, qu'il y ait des auteurs, si t'as l'éditeur à un auteur qui vient d'ailleurs, il sera là, bien entendu. Donc, après, ça occasionne peut-être des problèmes du style comment les faire venir, par exemple. Hein, si le gars doit faire 900 km.
Oui, c'est vrai que le château, il n'y a pas de chambre pour dormir. C'est assez embêtant, un petit peu.
Ah, bah, il y a des chambres, mais malheureusement, elles ne sont pas habitables. Donc...
Oui, oui. Et surtout.
Ça pourrait être sympa.
En été, ça serait pas mal. Il faut faire un camp comme
une bonne idée.
À l'époque, il y avait des camps, des soldats, tout ça, des seigneurs.
Monter des tentes là-haut, peut-être, pourquoi pas aussi.
Ah oui, ça serait pas mal.
Ça serait bien.
Oui, et puis finalement, vous avez la volerie des aigles à côté. Vous avez la...
Oh, il y a énormément d'activités dans ce coin-là. Vous avez plein de villes fortifiées à visiter. Mm-hmm. Vous avez effectivement la volerie des aigles, la montagne des singes, le parc des cigognes.
Oui, en bas, on commence déjà par le bas et on monte tranquillement.
On monte tranquillement, il y a de quoi s'occuper. Hein.
Donc, vous serez à combien à peu près d'auteurs dans ce festival?
Je crois qu'on est, par week-end, on est entre 12 et 13 personnes sur le lieu à dédicacer. Mm-hmm. Donc, ça veut dire 12 et 13 titres. Ou style de dessin à se faire dédicacer, c'est pas mal. On a du jeunesse, on a donc de la bande dessinée pure, et des titres d'ailleurs qui sont pas forcément des titres alsaciens. Hein. Donc il y a des auteurs qui viennent dédicacer leurs albums. C'est par exemple les Petites Poules. Bon voilà, c'est un.
Ça n'a rien à voir. Avec
ça n'a rien à voir. Voilà. Mililou, bon, il y a un album, je crois, de Mililou qui se passe au Königsbourg, mais sinon les autres sont passent ailleurs. Quoi.
Oui, oui. Et vous, dans votre BD, est-ce que vous avez un personnage qui a une aventure au Königsbourg?
Aline a vécu une aventure. Moi, au niveau BD, j'ai fait un album sur le siège du château du Haut-Königsbourg, donc paru au DNA. J'ai fait Aline, j'ai fait un guide à l'époque sur le château. Il est dans mon livre sur les rochers, sur les châteaux forts, et un ensemble de cartes postales qui aujourd'hui ne sont plus disponibles parce que l'éditeur a fermé. Donc voilà, donc ça fait à peu près 30 ans que je fais des petits trucs pour le château. Ouais. Donc j'ai quand même deux albums qui sont entièrement dans le château. Donc l'aventure d'Aline qui elle remonte le temps et on va découvrir comment le château est construit, son évolution. Donc,
et puis c'est ludique pour les enfants, pour les plus
ludique,
jeunes. Hein.
Voilà, c'est ludique pour les enfants et les adultes, ils y apprennent aussi des choses.
C'est vrai que tout le monde n'aime pas lire, alors quand il y a une BD on peut apprendre. C'est sympathique. Moi, dernièrement, j'ai quelqu'un qui m'a dit « Oh, moi, les livres, non, je ne peux pas lire. » Par contre, les BD, oui. Avec les BD, on peut aussi, il n'y a pas que... On peut apprendre beaucoup de choses.
Et la BD, c'est une variété incroyable de dessins, de graphismes, de styles de narration. Et on y trouve, je suis sûr que tout le monde a un style de BD à lire. Quoi. Donc, tout le monde peut lire de la BD. Oui, je pense que ceux qui aiment l'humour vont lire des BD humoristiques, l'histoire. On trouvera toujours quelque chose.
Donc, votre enthousiasme, c'est vrai que fait plaisir à entendre. Parce que, qu'est-ce qu'on peut offrir aujourd'hui à des jeunes ou même à des moins jeunes à l'ère de l'informatique? On se dit, est-ce qu'on peut encore leur offrir des livres?
Je pense bien, j'espère bien. En tout cas, moi, ce que je trouve de bien pratique avec un livre, c'est que vous pouvez, s'il y a une panne de courant, vous pouvez continuer à lire.
Oui, même à la bougie, donc c'est bon.
Voilà. moi, personnellement, par exemple, je n'ai pas de téléphone avec un iPad et toutes ces bêtises. Je me refuse à rentrer dans l'ère de la technologie.
On va pas dire que c'est des bêtises, parce que sinon on va se faire taper dessus.
J'assume pour moi.
Non, mais ça dépend ce qu'on en fait.
Ça dépend ce qu'on en fait. Si on l'utilise, enfin moi, si j'utilise un téléphone, c'est pour téléphoner en général. Oui. Donc voilà. Et je trouve que le livre, c'est un peu magique parce qu'il y a quand même quelque chose qui vous le lisez, vous le mettez dans un coin, vous le reprenez, vous l'ouvrez, vous le feuilletez. Il y a un rapport au livre que je trouve intéressant et j'ai pas l'impression que ça tombe particulièrement. Quand je vois par exemple les médiathèques, elles sont toujours fréquentées, il y a toujours des gens qui viennent encore emprunter des bouquins, les librairies, il y a encore du monde, les festivals de BD ou de livres sont blindés de monde.
Et puis c'est vrai, ce qui fait plaisir aussi, c'est les kiosques à livres qu'on retrouve un petit peu partout dans les villages, même.
Tout à fait. D'ailleurs, je serai à Fontenoy-la-Joûte aussi, donc au village du Livre, vers la fin du mois de juillet. Je n'ai pas exactement la date en tête, mais là, c'est aussi un petit festival du Livre. Oui. Donc, c'est un village où il n'y a que des bouquinistes, donc ça, c'est assez marrant.
Donc, ça fait plaisir à voir. Le livre est loin de se perdre.
Moi, je pars du principe que ça doit être des outils, en fin de compte. Si vous prenez, par exemple, le téléphone, c'est un outil. L'ordinateur est un outil et le crayon, c'est un outil. Donc, on peut choisir, à un moment donné, de faire une mise en couleur, par exemple, avec un ordinateur, et puis, le lendemain, on fait une mise en couleur avec de l'aquarelle. Donc, il faut pas jeter l'un contre l'autre, si vous voulez dire, ça y est, maintenant, l'ordinateur, tu laisses tomber, t'as l'ordinateur.
Non, on peut quand même apprendre, faire des recherches, apprendre beaucoup de choses.
On peut se servir de ces choses-là comme d'un outil de façon intelligente sans devenir un esclave de l'objet.
Alors, Christophe Carmona, est-ce qu'on a fait un peu le tour de ce qu'il y avait à dire en dehors de ce festival, donc de vos livres et puis surtout de ce dernier pour les gens qui veulent marcher, se promener,
Oui, donc dans ce livre-là sur les rochers, il y a aussi un petit détail qui est amusant, c'est que par rocher, j'y ai mis à chaque fois un animal, que ce soit un oiseau ou un rongeur. Donc j'ai essayé de faire une espèce de petit bestiaire aussi du coin de la région, des animaux spécifiques que j'ai soit croisé, soit jamais croisé, mais que je sais qu'ils sont là. Voilà, donc je me suis aussi amusé à ça. Donc voilà, il y a pas mal de petites choses à regarder. Et ce livre, donc, il y a une petite carte aussi. Donc, comme je disais tout à l'heure, qu'il est difficile de trouver certains rochers. J'ai alors dessiné un petit plan, petit schéma avec le nom de la départementale, etc. Donc vous avez toutes les indications pour trouver le rocher de façon très facile.
Donc, il n'y a pas d'excuse. Vous pouvez vous promener dans la forêt, trouver. Vous emmenez le livre sous le bras, et puis c'est parti.
Et alors aussi, c'est quand vous avez un rocher, moi j'ai mis un dessin, mais vous avez tout autour, la personne va découvrir un tas d'autres rochers, un tas d'autres choses. Et pourquoi il n'a pas mis celui-là et celui-là? Parce qu'en fin de compte...
Si on observe bien, on retrouve un bestiaire, en fait, dans les rochers.
Tout à fait. Ah oui, on peut s'amuser aussi. Oui. Des fois, on voit des têtes, on voit effectivement des choses. Il y en a même qui, par exemple, il y a un rocher de sanglier au pied du Haut-Königsbourg, donc qui est tout en bas, et il a vraiment une forme de sanglier, c'est assez surprenant. Ouais. Donc, vous avez le rocher des reptiles qui se trouve au Tenchel, ils ont vraiment des allures de reptilia, c'est assez surprenant.
Et personne ne les a sculptés, c'est
la nature. La nature qui a décidé que ça ressemblait à ça, donc c'est assez marrant.
Alors, Christophe Carmona, si les personnes veulent vous rencontrer, alors déjà au château du Haut-Königsbourg, vous y serez le 13 et le 14 juillet.
Oui, tout à fait.
Toute la journée?
Oui, je serai toute la journée. Oui.
Donc... Et puis autrement, allez dans d'autres régions, dans d'autres festivals
Alors, comme je disais, le festival du livre à Fontenoy-la-Joûte qui aura lieu, je crois que c'est vers le 20 juillet, par là. Sinon, on me retrouve chaque année au grand salon du livre à Colmar.
Oui, ça c'est le plus grand, je crois.
Ça c'est l'incontournable. Ouais. Et Ilzac, bien entendu, festival de BD. Et Strasbourg, qui a eu lieu maintenant et qui s'est très bien passé. Il y a eu beaucoup de monde, beaucoup de visiteurs. C'était une belle réussite.
Eh bien, merci. Merci pour votre visite. Et puis, on vous souhaite plein de succès.
Merci beaucoup.
Allez, au revoir.
Au revoir.